Économie et politique, c'est la chronique de Philippe Jürgensen.
Notre chronique d'aujourd'hui s'appelle « Pourquoi il vaut mieux être slovène que balte ?» La question peut paraître saugrenue. Si je la pose, c'est parce que la Commission européenne et la Banque centrale européenne, Bruxelles, viennent de prendre une décision marquante qui est de faire entrer dès le 1er janvier prochain dans notre monnaie unique, l'euro, la Slovénie, et de repousser un peu plus tard, plus exactement, la candidature de la Lituanie, un des trois pays baltes. Notre monnaie unique, l'euro, s'élargit, mais à petits pas. Le premier nouveau pays, les pays de l'élargissement, les pays d'Europe de l'Est, qui ont rejoint l'Union européenne en juin 2004, à entrer dans l'euro, va donc être la Slovénie, qui est certainement le bon élève de la classe, puisqu'elle remplit sans aucun problème tous les critères du fameux traité de Maastricht. Elle a un déficit budgétaire faible, elle a une inflation faible également, elle a donc des prix qui sont stables et des politiques budgétaires raisonnables, elle a également une dette très modérée. Bon, elle remplit sans problème ces fameux critères économiques. Et son entrée n'est pas un événement tout à fait négligeable, bien qu'il s'agisse d'un petit pays qui n'a que 2 millions d'habitants, parce qu'elle va faire basculer la majorité. Nous sommes dans la situation un peu paradoxale actuellement que dans l'Union européenne, la majorité des pays ne sont pas dans l'euro, puisqu'il n'y a que 12 pays dans la zone euro sur 25 membres actuellement de l'Union européenne. Avec la Slovénie en plus, il y aura 13 pays dans l'euro, ce qui fait que de peu, mais la majorité des pays de l'Union européenne seront dans la zone euro. Dans le même temps, Bruxelles et Francfort ont dit non à la Lituanie, enfin non pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que la Lituanie a un tout petit peu trop d'inflation, à vrai dire très peu, puisqu'elle n'est qu'à un dixième de point au-dessus de la norme admise. On reconnaîtra que c'est un dépassement modeste, d'autant qu'elle remplit tous les autres critères du bon élève économique, là aussi, comme la Slovénie. Pourquoi cette différence de traitement ? Parce que la Commission européenne et la Banque centrale européenne ont voulu sans aucun doute donner un signal de rigueur. Le fait de dire qu'il y avait un admis et un recalé au concours à l'entrée dans l'euro est pour eux un signe de consolidation de leur crédibilité, du sérieux avec lequel il faut envisager l'entrée dans la monnaie unique. C'est donc un signal de rigueur. Certains disent qu'il y a aussi, dans ce signe qui est donné, le désir de faire entrer en même temps les trois pays baltes, qui sont en effet à la fois, donc outre la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie, à la fois en mesure d'intégrer assez rapidement l'euro, probablement quelques mois ou une année après la Slovénie. On peut en effet se demander qui sont les pays qui vont, après la Slovénie, suivre pour rejoindre notre monnaie unique européenne. Les trois pays baltes, comme je viens de le dire, sont certainement les candidats les plus vraisemblables. Ils remplissent les critères, ils ont des monnaies stables, ils sont très près de l'entrée. Il en est de même pour trois autres pays, Chypre et Malte, qui sont de tout petits pays, la Slovaquie, pays un peu plus important, qui a rejoint l'héritier du système monétaire européen, qui s'appelle le mécanisme de change européen, qui a donc des systèmes de coopération monétaire assez étroites avec la Banque centrale européenne, à la fin de l'an dernier. On peut penser que ces pays, qui sont tous dans l'accord de change européen, auront en 2008 rejoint la zone euro et auront donc complété son élargissement. Il reste que on est frappé de voir que la tendance des autorités européennes est, plutôt que d'élargir la zone euro, de décourager les candidats en imposant un strict respect des critères, et un respect non seulement sur l'immédiat, mais dans la durée. La Banque centrale européenne, la Commission européenne tiennent beaucoup à cette idée qu'il ne s'agit pas seulement de respecter les critères à un moment, mais de les respecter en permanence. À vrai dire, si on avait été aussi sévère avec les pays qui font actuellement partie de la zone, un certain nombre d'entre eux n'y seraient pas ou devraient en être exclus. Mais ils ont, eux, eu l'avantage d'y être dès le départ. Une deuxième idée des autorités européennes, c'est qu'il convient de faire antichambre deux ans ce qu'imposent les textes, puisqu'il faut avoir montré une stabilité de sa monnaie par rapport à l'euro pendant deux ans, mais que plus de deux ans, c'est encore mieux que deux ans. Et ça, ce n'était évidemment pas dans les textes au départ, c'est, disons, une interprétation qui en est donnée et qui va bien aussi dans le sens de la rigueur. Et puis, on peut noter aussi que la BCE n'encourage pas du tout, et même leur annonce qu'elle ne leur donnera aucun soutien pour le faire, ceux qui choisissent d'avoir une marge réduite de fluctuation par rapport à l'euro. On sait que le mécanisme de change européen consiste à fixer pour chaque devise étrangère une parité, un cours pivot par rapport à l'euro, et puis avoir une marge de fluctuation qui est assez large, puisqu'elle est de 15% de part et d'autre de ce cours central. Mais il est possible de se fixer un objectif plus rigoureux. Par exemple, Malte a décidé que son objectif serait 0% de variation, c'est-à-dire un cours fixe par rapport à l'euro. La Lettonie a choisi 1% de variation seulement. Eh bien, ces pays le font de façon unilatérale, mais sans bénéficier des interventions de la Banque Centrale Européenne pour soutenir ce choix. On voit bien, là aussi, une attitude plutôt décourageante qu'encourageante. Et d'ailleurs, les déclarations publiques, notamment des dirigeants de la Banque Centrale Européenne, consistent effectivement, en général, à dire à ces pays « Soyez patients, ne vous hâtez pas trop de rejoindre la zone ». On trouve le même comportement, d'ailleurs, avec d'autres pays qui ont été tentés de, comme on dit, euroiser leur monnaie, c'est-à-dire de s'ancrer complètement par rapport à l'euro, alors avec là un cours fixe, et en réalité ce sont des pays où, à travers le nom de leur monnaie nationale, c'est en réalité l'euro qui circule. L'Estonie, déjà citée, est un pays de ce type. Il y a échange de sa monnaie à cours fixe, avec garantie absolue par rapport à l'euro, mais un pays qui n'est pas encore dans l'Union européenne, comme la Bulgarie, a fait le même choix. Sa monnaie a un cours fixe par rapport à l'euro, et sous le nom de lev en Bulgarie, c'est en réalité de l'euro qui circule. Même chose aussi dans les pays de l'ex-Yougoslavie, qu'il s'agisse de la Croatie, de la Serbie, et encore plus du Kosovo et du Monténégro, qui en réalité ont complètement euroisé leur monnaie. Toutes ces initiatives sont tolérées, mais pas du tout encouragées par les autorités européennes. Alors la question maintenant, c'est de savoir pourquoi les autorités européennes ont cette attitude. Il me semble qu'il y a deux raisons fondamentales, qui se comprennent d'ailleurs. La première est une crainte pour la réputation de l'euro. En faisant entrer un certain nombre de petites monnaies, qui évidemment sont très peu connues, et de petits pays qui sont très peu connus sur les marchés internationaux, on craint de faire perdre un peu de son prestige, de sa réputation à la monnaie européenne. On craint ce que, au moment du lancement de l'euro, on avait appelé l'effet Club Med. Lorsque l'euro a été créé, a été lancé en 1999, il y avait eu une longue période de réflexion. On se disait qu'on avait, au fond, pas tellement envie, dans cette première phase, d'avoir l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et on appelait ça, d'un terme un peu dépréciatif, le Club Med des monnaies. Ils sont entrés, et finalement on ne s'en trouve pas si mal, mais cette même crainte ressurgit à l'égard des pays d'Europe centrale et orientale. On se dit qu'on a là des pays en somme, pardon pour eux, mais de seconde zone, et que ça peut rendre l'euro moins solide, moins prestigieux, moins apprécié sur les marchés internationaux. Ceci, bien que le problème institutionnel que pose cette entrée de nouveaux pays ait été, lui, réglé, autant pour la Commission européenne, à chaque fois qu'on ajoute de nouveaux pays, il faut ajouter un nouveau commissaire autour de la table, ce qui pose des problèmes de plus en plus difficiles pour faire marcher l'Europe. Autant pour la BCE, on a résolu le problème, puisqu'il y a un accord qui d'ailleurs devrait servir de modèle pour la Commission européenne, dans lequel il a été convenu que progressivement, il y aurait une rotation, il n'y aurait pas obligatoirement un gouverneur par pays, mais un partage des sièges entre les pays et en fonction de leur taille relative. C'est donc un problème qui a été réglé et qui devrait faciliter l'élargissement de la zone euro, mais ça ne suffit pas à lever les craintes dont je viens de parler. Et puis le deuxième facteur, c'est une crainte plus économique, celle-là, qui est l'effet de rattrapage, qui a été décrit notamment par les économistes Balassa et Samuelson, l'effet de rattrapage qui fait que lorsque des pays rejoignent une zone économique et monétaire, s'agrègent aux autres, ils vont connaître pendant une certaine période une croissance plus élevée, certes, mais aussi une inflation plus élevée. Et on sait bien à quel point les autorités monétaires européennes sont préoccupées, c'est d'ailleurs leur mandat officiel, d'empêcher tout dérapage inflationniste. Et au fond, on en revient toujours à ça, la lutte contre l'inflation, préoccupation non pas seulement dominante, mais même unique de la politique monétaire européenne. Est-ce un choix sage ? Faut-il tout centrer sur la lutte contre l'inflation sans tenir compte des autres données d'une politique économique ? C'est une question que nous nous posons souvent et qu'il faut continuer à se poser. Elle va évidemment bien au-delà du partage discutable qui a été fait entre le sort réservé à la Slovénie et à la Lituanie pour l'entrée dans l'euro.